Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Chaque société a ses propres loisirs. Dans une civilisation qui ne disposait pas de moyens de communication actuels, où la circulation des livres était importante, certes, mais pas autant que l'imprimerie ne l'a ensuite permis, où la sociabilité et le partage de la vie au quotidien étaient en revanche beaucoup plus intenses qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bref, dans la Rome antique, on se réunissait souvent pour écouter des discours que les Romains appelaient déclamations, declamationes. L'art de la déclamation consiste, comme le dit Quintilien, à traiter des sujets fictifs à l'imitation des vrais procès et des assemblées délibératives. On s'amusait à prononcer et à écouter des plaidoyers pour des procès simulés ou des discours pour des débats politiques imaginaires. Au départ, concevoir et réciter des discours fictifs relevait d'une pratique pédagogique grâce à laquelle les étudiants apprenaient à maîtriser les règles de l'éloquence, c'est-à-dire l'art de la parole qui convainc. Mais écouter des beaux discours portant sur des sujets bouleversants, touchants, fantaisistes, suscita très vite un tel engouement que la déclamation devint aussi une fin en soi, c'est-à-dire pratiquée aussi hors de son contexte scolaire originaire, comme une forme de divertissement. On pourrait y voir même la matrice de certains genres télévisuels d'aujourd'hui, comme le débat télévisé ou encore ce qu'on appelle en anglais le legal drama, le drame judiciaire. Ce discours ne se contentait pas d'argumenter avec esprit en faveur ou contre une hypothèse donnée, ils étaient émaillés d'allusions à des œuvres littéraires. Ils citaient Cicéron, Virgile, Horace, Ovide, avec beaucoup d'adresse. Ainsi, les déclamateurs non seulement affichaient un style orné précieux, mais ils incitaient aussi les auditeurs à reconnaître les allusions cachées, les clins d'œil aux grands auteurs et apprécier l'habileté avec laquelle on tirait parti de la grande littérature pour en faire jaillir de nouveaux discours. C'était donc un spectacle mondain, à la fois captivant et cultivé, et les déclamateurs étaient soumis à l'appréciation affûtée des auditeurs, un peu comme il en est des films qui nous transforment en critiques cinématographiques. Comme il a été bien dit, le genre de la déclamation oscille entre instruction et distraction des élites. Quelques textes de déclamation nous sont heureusement parvenus, le recueil de Sénèque le Père, les deux séries attribuées à Quintilien, Calpurnius Flaccus, Dracontius, du côté hellénophone de l'Empire, les représentants de la seconde scolastique, par exemple Lucien de Samosate, puis de la troisième, parmi lesquels domine Libanios. Pour qu'une déclamation existe, il faut trois ingrédients. Un sujet, c'est-à-dire un problème à traiter. Une personne, le déclamateur, qui le développe dans son discours et en propose une solution. Enfin, bien sûr, un auditoire. C'est pourquoi, au fond, assister à un cours au Collège de France, c'est un peu participer à cette même forme de communication et de transmission. Nos cours sont des déclamations, mais soyons honnêtes, seulement quand ils sont bien réussis. Rapprochons-nous maintenant un peu plus d'une déclamation du type judiciaire que les Romains appelaient des controverses. Une controverse suppose une brève description d'un fait et une règle, une loi, une lex, à la lumière de laquelle se déroule le procès fictif. Cette norme n'était pas nécessairement une loi en vigueur à Rome. Ce n'est pas une loi en vigueur à Rome. Les normes à la base des déclamations étaient souvent inventées, mais c'est un aspect fondamental qu'on ne saisit pas toujours pleinement. Ces lois, bien qu'inventées, obligeaient néanmoins les déclamateurs à développer des arguments semblables à ceux qu'on utilisait effectivement dans les droits romains et qu'on lisait dans les livres des juristes. En ce sens, il s'agit de discours fictifs qui développaient des arguments réalistes. Nous sommes prêts pour en goûter un bref exemple évoqué par Cicéron dans son ouvrage de jeunesse, le De Inventione, c'est-à-dire le traité qui apprend à trouver les bons arguments pour un débat. Précision importante, Cicéron ne rapporte ici pas l'ensemble de cette déclamation, pas toute la déclamation, mais seulement ses prémices, c'est-à-dire la loi et les faits. Le discours proprement dit, en revanche, n'est pas relaté. Pourquoi Cicéron se borne-t-il à un exemple partiel? Parce que son but n'était pas de proposer à ses lecteurs une déclamation toute prête, mais leur indiquer, vous vous souvenez, il s'agit d'un manuel pour des étudiants, donc son but était d'indiquer au lecteur quelle perspective il aurait fallu adopter pour élaborer une déclamation. Notamment, c'est, disons, le contexte de cet exemple, dans ce cas, en se concentrant sur la figure de la définition, l'opération intellectuelle qui consiste en la définition. Il y a définition quand, dans les textes d'une loi, figure un mot dont on cherche le sens. De cette façon, la loi est la suivante. Vous vous souvenez, il y a toujours une loi. Donc, ça, c'est le début d'une déclamation. Et on nous propose la loi à la lumière de laquelle il faut développer le discours. Ceux qui, lors d'une tempête, ont abandonné leur navire perdront tout. Le navire et sa cargaison reviendront à ceux qui seront restés à bord. Or, deux hommes propriétaires, l'un d'un navire, l'autre de sa cargaison, avaient déjà gagné la haute mer quand ils aperçurent un naufragé qui nageait et tendait les mains vers eux. Pris de pitié, ils approchèrent le navire de lui et le firent monter à bord. Après un certain laps de temps, la tempête commença à les secouer eux aussi, à tel point que le propriétaire du navire, donc l'un des trois, le propriétaire du navire, qui en était aussi le pilote, se réfugia dans la chaloupe et de là, grâce à un câble attaché à la poupe qui tirait la chaloupe, il guida le navire comme il pouvait. Quant au propriétaire de la cargaison, il resta dans le navire et se jeta sur son épée. Alors le naufragé prit le gouvernail et vint, dans la mesure du possible, au secours du navire. La mer, une fois calmée et les temps ayant changé, le navire regagne le port. Conclusion, celui qui s'est jeté sur son épée et qui n'a été que légèrement blessé se remet aisément. Et chacun des trois hommes revendique les navires et sa cargaison. Dans ce cas, pour plaider leur cause, tous les trois invoquent le texte et la controverse naît du sens d'un mot. En effet, on cherchera par des définitions à préciser ce que signifie abandonner un navire, rester à bord d'un navire, et même à dire ce qu'est un navire. Alors voilà, vous avez désormais tous les ingrédients nécessaires. Mettons-nous donc, si vous le voulez bien, à la place du déclamateur qui doit rédiger son discours. Donc vous avez tous les éléments. Maintenant, il faut développer le discours. Alors, il existe une loi qui dit que celui qui reste sur un navire, si les autres le quittent, en devient le propriétaire. Le dispositif peut paraître simple, mais les déclamations cherchent toujours à relever la barre. Et comment est-ce que ça s'avère? Si la norme est simple, on joue sur les faits. Et dans ce cas, les faits sont très compliqués. À tel point qu'il y a trois personnes qui prétendent être restées sur le navire, donc en être devenues les propriétaires. D'abord, il y a l'ancien propriétaire du navire, de la cargaison, qui, désespéré, avait tenté de se suicider, était donc resté à bord, bien qu'inconscient, et s'était finalement sauvé. Alors, peut-on considérer qu'il est vraiment resté à bord? En deuxième lieu, il y a les propriétaires et pilotes du navire qui, à un moment donné, est monté dans la chaloupe et qui, de là, à l'aide d'un câble, a fait le possible pour diriger le navire principal. Alors, dans son cas, est-ce qu'on peut considérer qu'il a abandonné le navire? Enfin, les naufragés qui avaient été pris à bord, qui, à un moment donné, prend le gouvernail et fait aussi de son mieux pour piloter les navires. Donc, un vrai casse-tête, trois prétendants, comment choisir? Alors, chacun de nous, j'imagine, vous avez déjà vos préférences. Oui, on peut avoir des préférences, mais il faut aussi donner des arguments pour justifier nos choix. C'est donc la façon d'argumenter qui constitue une grande partie de l'effort du déclamateur. Trouver les bons arguments, trouver les arguments de inventione, c'est-à-dire la façon de trouver des raisons pour soutenir son propos. Au fond, le point autour duquel tout tourne est assez clair. Qui des trois, au juste, est resté à bord du navire et qui l'a abandonné? Autrement dit, il faut définir ce que signifie rester à bord du navire. Il faut avoir sous nos yeux le texte de la loi de la déclamation. Car toute l'affaire dépend de la signification que nous attribuons à ces mots. Alors, c'est pourquoi Cicéron prend ce cas, comme nous l'avons vu au début, comme un exemple éloquent d'un problème qui doit être tranché par les biais de la définition. Rester, est-ce seulement être physiquement sur le navire, ou bien est-ce aussi aider à le diriger? Et le fait d'être sur la chaloupe et d'essayer de piloter les navires par les biais d'un câble représente-t-il la même chose que de rester sur le navire ou est l'abandonner? Cela dépend en dernier ressort de ce que l'on entend par navire. La chaloupe fait-elle partie du navire ou pas? Cicéron, malheureusement, ne nous donne pas de réponse. Pour en chercher une, nous pouvons nous tourner vers un autre domaine, celui du droit. Alors, un grand juriste romain a en effet abordé la même question quelques années plus tard. Je sais que vous devinez déjà de quel juriste il s'agit, vous ne trompez pas, il s'agit en effet d'Alphénus. Le pauvre juriste malmené par Catulle, sans que personne n'ait compris la raison. D'ailleurs, au vu des retours que j'ai eus de votre part après les cours de la semaine dernière, je sais que chacun a son avis là-dessus. Alors, avant de lire ce passage de Publius Alphenus Varus, essayons, c'est une partie un peu compliquée, mais j'imagine que vous allez, disons, profiter de cette mise en abîme, essayons d'établir le rapport entre la déclamation, dont nous avons vu dans Cicéron quelques éléments, et le passage d'Alphenus que nous allons lire. Alors, l'ébauche de déclamation dont Cicéron nous donne les témoignages, nous parvient par les biais de ce texte qui a été rédigé en 84-83 avant Jésus-Christ, le De Inventione. Alors, il s'agit bien évidemment d'un problème traité dans la sphère rhétorique. Donc, le De Inventione, c'est typiquement un manuel de rhétorique. Donc, ce genre de problème était traité dans une dimension rhétorique. Alphenus, quant à lui, l'aborde en juriste. Donc, vous voyez, c'est le même problème, mais dans deux champs discursifs différents. Alors, dans quel but Alphenus aborde ce problème? Alors, probablement en lien avec un legs, c'est-à-dire un testateur avait écrit dans son testament « Je lègue mon navire à Titius ». C'est un legs. Le navire du défunt dispose également d'une chaloupe. Le légataire doit-il recevoir uniquement le navire ou le navire et sa chaloupe avec? Nous pouvons aisément imaginer que l'héritier souhaite donner uniquement le navire et garder la chaloupe, tandis que le légataire réclame les deux. Les deux contextes ne sont donc pas identiques, mais pas si différents non plus. D'un côté, dans la déclamation, il y a un procès fictif, de l'autre, chez les juristes, un procès réel. Dans la déclamation, il s'agit d'interpréter le texte de la loi qui attribue les navires à la personne qui en est restée à bord. Alphenus doit aussi interpréter un texte, en l'occurrence un testament. L'opération que le déclamateur, les juristes doivent effectuer est donc tout à fait similaire. Et si dans la déclamation, les mots à définir sont « rester »,« abandonner »,« navire », dans le cas d'Alphenus, le mot est « navire », qui constitue donc le vrai point en commun des deux textes, qui ont en commun aussi que dans les deux cas, le mot « navire » est à définir en rapport avec la chaloupe. Dernier élément de cette mise en abîme, celui de la date, on le voit bien, on ne sait pas quand Alphenus a écrit son œuvre, qui s'intitule d'ailleurs « Digeste », le nom que plus tard Justinien donnera à son anthologie. Probablement, Alphenus écrivit son « Digeste » une quarantaine d'années après le De Inventione de Cicéron, quarantaine d'années, c'est une hypothèse, nous n'avons pas d'éléments, hein, disons en gros. N'oublions pas non plus qu'Alphenus avait eu pour maître le juriste Servius Sulpicius Rufus, contemporain et ami intime de Cicéron, avec lequel ce dernier était allé se former en Grèce. Bref, il s'agit d'un seul et même milieu élitaire où les idées et les expériences étaient partagées. Il n'est donc pas du tout surprenant de voir un juriste s'attaquer à un problème, celui de définir ce qu'est un navire, qu'il avait probablement déjà abordé comme exercice déclamatoire lorsqu'il fréquentait l'école des rhétoriques dans sa jeunesse, et l'inverse est également vrai. Il n'est pas surprenant de voir que les élèves de rhétorique s'exerçaient sur des problèmes qui étaient abordés aussi par des juristes, ce qui paraissait en jeu révèle ne pas l'être vraiment. Nous y sommes. Enfin, lisons ensemble le texte d'Alphénus, tiré de l'épitomée, petit détail philologique, de l'épitomée de son digeste réalisé par un autre juriste, Paul. Alphénus a répondu que la chaloupe ne fait pas partie du navire et n'a rien de joint avec lui, car une chaloupe est aussi en elle-même une petite nacelle. En revanche, tous les éléments qui sont joints au navire, comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voiles, sont, pour ainsi dire, les membres d'un navire. Pour commencer, un constat stylistique, mais bien simple, qui ressort de la comparaison avec la déclamation. Si les talents d'un déclamateur est de construire un discours long et fleuri autour d'un thème, le génie du juriste est d'aller au cœur du problème avec les moins de mots possibles. Ça, c'est évident. Mais pas sans imagination, on va le voir. Venons-en justement au contenu. Alors, Alphénus répond que la chaloupe ne fait pas partie du navire et donc qu'elle n'est pas due au légataire par l'héritier. Alors, quels arguments met-il en jeu ? La chaloupe, justifie Alphénus, n'est pas jointe au navire, dans le double sens qu'elle n'a pas des liens physiques structurels, mais pas non plus des liens conceptuels. Elle n'est pas unie, elle n'a rien en commun. On comprend qu'ici, Alphénus, comme dans les passages sur les collèges des juges dont un ou plusieurs membres ont été substitués, a en tête la tripartition des corps des stoïciens, corps uni, corps composé de parties cohérentes, corps collectif composé d'éléments qui sont séparés. Son premier réflexe est de se demander si la chaloupe appartient à un corps composé, comme l'est justement un navire. Non, répond-il, la chaloupe n'a rien d'attaché au navire, mais ce manque de lien ne s'avère pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan conceptuel. Et pourquoi ? Car, dit Alphénus, la chaloupe est à son tour une petite nacelle. Alors, je sais, nacelle. Je propose une traduction littérale du latin parva navicula. Donc, je traduis par petite nacelle. Alors, je sais qu'en français, nacelle est un terme vieilli littéraire pour indiquer une petite embarcation à rame. Par ailleurs, en français, il existe aussi un autre diminutif, le mot navette, qui désigne l'outil qu'on utilise dans les métiers à tisser. Le mot navette est lui aussi en diminutif de nef, c'est-à-dire du latin navis. Alors, même s'il est difficile de trouver un équivalent en français contemporain, je pense que nous sommes compris. Alphénus qualifie la chaloupe, la scafa, c'est un terme qui donne un autre mot en français, esquif, je pense. Et donc, il la qualifie de petite nacelle, disons de tout petit navire. Alors, je le souligne, on va y revenir, mais je le souligne dès à présent. Donc, il utilise d'abord le diminutif de navis, navicula, mais en plus, il dit qu'il s'agit d'une petite nacelle. Donc, il y a deux diminutifs dans cette locution. Donc, du point de vue sémantique, il s'agit d'une très petite, d'un tout petit navire, très petit navire. Alors, j'ouvre une parenthèse, ce sont les choses qui me font rêver, mais je ne sais pas où ça nous amène, et je pense que ce sont des rêves qui ne sont pas vraiment partagés, donc, vous savez qu'il n'y a rien de plus intéressant pour chacun de nous que de révéler ses rêves, ce que les autres n'ont pas forcément envie d'entendre, et, mais donc, comme j'ai le micro, donc j'en profite. Alors, pourquoi ça me fait rêver? Parce qu'il s'agit d'un fait, de quelque chose, d'un constat. Alors, c'est très, très compliqué lorsqu'on a affaire avec des textes de repérer des éléments de fait. Normalement, il s'agit d'interprétation. Alors, lorsqu'on trouve quelque chose de concret, d'évident, on s'en réjouit. Après, le problème, c'est qu'il faut interpréter. Et donc, pour l'instant, j'ai seulement le constat et j'ai pas d'interprétation. Alors, c'est quoi ce fait minimal, tout à fait? Alphénus est le seul, pratiquement le seul, il y a deux autres exemples, mais pas du tout dans la même mesure. Donc, on peut dire qu'Alphénus est pratiquement le seul juriste romain à utiliser des diminutifs. Dans les passages de son œuvre qui nous sont parvenus, on en trouve cinq. Azellus, donc petit âne, Muliercula, donzelle, quelque chose comme ça, deux fois Servulus, c'est-à-dire petit esclave, il utilise aussi une fois puer, c'est-à-dire enfant, pour nommer un esclave, donc encore une fois un diminutif, si vous voulez. Et une fois, Alphénus va jusqu'à utiliser une locution où les diminutifs se cumulent. Vous voyez ici, aliquam partem parvulam incommodi. Aliquam, une quelque partie très petite, parce que ce n'est pas seulement parva, mais c'est parvula, c'est le diminutif de petit, d'inconvénient, incommodi. Et cette accumulation de diminutifs se retrouve aussi dans parva navicula, la locution que nous avons trouvée dans notre texte. Alors, cet amour d'Alphénus pour les diminutifs, je crois que presque par hasard, nous confronte à une marque stylistique typique de ce juriste. Alors, comme il est en général très difficile de distinguer le style d'un juriste de celui d'un autre, pour vous faire comprendre les problèmes, si on ouvre le digeste au hasard et on pointe un texte sans montrer de quel auteur il s'agit, c'est très compliqué de se dire il s'agit d'Ulpien ou de Paul ou d'Alphénus. C'est très compliqué de déceler l'identité d'un écrivain. J'imagine que dans le cas des écrivains, disons, avec un plus haut degré d'esthétique, parfois, si on est familier, on a bien lu avec attention, on peut faire des comparaisons, on arrive à repérer le style et à donner une identité. Pour les juristes, c'est très compliqué. Donc, vous voyez pourquoi c'est peut-être au moins intéressant d'avoir décelé une caractéristique exclusive ou presque d'Alphénus. L'utilisation des diminutifs. Bien évidemment, ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas que dans tous les textes d'Alphénus, il y a des diminutifs. Mais cela nous donne quand même un avant-goût de sa personnalité. C'est quelqu'un qui utilisait les diminutifs. Alors, quoi qu'il en soit, nous devons donc admettre que parva navicula, petite nacelle, est une locution qu'Alphénus a choisi. Elle lui appartient. Alors, ce n'est pas le seul aspect à retenir. Parva navicula est en réalité une métaphore. Je suis presque convaincu. Pas sûr, mais presque convaincu. C'est une métaphore dans la mesure où, un terme désignant une chose, un navire, une navis, est utilisé pour en définir une autre, scafa, la chaloupe. Donc vous voyez, on dit que la chaloupe est une petite, un très petit navire. Donc très petit navire, c'est la métaphore pour définir la chaloupe. Cette métaphore fonctionne justement grâce au diminutif qui permet le rapprochement, qui serait sinon étonnant, la chaloupe est un navire, serait un propos discutable, à la limite inacceptable. La chaloupe est un navire. Dire qu'une chaloupe est un très petit navire est bien mieux audible. Mais cette métaphore a en même temps une valeur classificatoire. Ça, c'est fondamental. Hein, une valeur classificatoire. C'est comme si Alphénus disait que la chaloupe appartient à la classe des navires et que les navires sont des dimensions variées, ce qui permet d'y inclure aussi de petites espèces telles la chaloupe. Message implicite est que ce qui compte pour appartenir à la catégorie des navires, ce n'est pas la taille, mais la forme et la fonction de l'embarcation. D'embarcation. La forme et la fonction d'embarcation. Alors, je comprends ce que vous pensez. Il serait bon de pouvoir mieux comprendre en quoi consiste cette classe, la rendre plus concrète. Voyons ce qu'on peut faire. Il existe en effet de nombreuses façons de construire une classe. La plus ennuyeuse est de dresser une liste. C'est une méthode qui demande un esprit érudit. L'Antiquité nous a conservé une liste de ce genre justement pour les navires. Et celui qui nous la propose, sans surprise, est Olugel. Vous vous souvenez de l'érudit qui proposait toutes les théories autour de la corporéité ou incorporéité de la voix. Et qui disait, mais ce sont des choses un peu inutiles. Donc, on comprend que normalement, lorsque quelqu'un fait une remarque critique, normalement, il est en train de parler de lui sans le savoir. Donc, dans ce cas, il fait une liste des navires, et ce qui est intéressant du point de vue intellectuel, c'est que pour définir, par les biais d'une énumération, parce qu'on parle de définition par énumération, il ne faut pas avoir une idée, il faut avoir de la mémoire et de la patience. Donc procéder un peu comme un collectionneur. Donc la définition, c'est un peu dans l'esprit d'un collectionneur. Et donc je vous propose de lire ce texte. Je vais maintenant dire, Olugel, faire l'énumération des principaux noms des navires dont j'ai pu me souvenir. Vous voyez, il a pu se souvenir, donc il nous dit qu'il n'est pas en train de copier ses fiches, mais qu'il a appris ses noms par cœur. Donc déjà, encore une fois, vous voyez cette façon de cacher, à la fois d'étaler son érudition. Alors, lisons cette liste. Ce sont les ourques, les vaisseaux de transport, les vaisseaux à madrier double. J'ai aucune idée de quoi s'agit. Les navires longs, les navires de transport pour les chevaux, les caraques, les sélos, que les Grecs appellent kélétès, les bateaux pêcheurs, les barques et bateaux, les vaisseaux légers, appelés voiliers par les Grecs. Il y a encore les brigantins voiliers, les bâtiments équipés pour la course, les mêmes construits dans une dimension plus large, les chaloupes, les pontons, les vaisseaux grecs, les fustes, les vaisseaux à voile et à rames, les pinasses, les corsaires, les canots, les vaisseaux pirates, les camers, les sidars, les radeaux, enfin les vaisseaux légers construits pour aller à la découverte. Pour rendre vivante cette liste, il faudrait faire comme dans Bis Repetita. Je ne sais pas si vous avez vu ce film d'Émilie Noblet actuellement en salle avec des comédiens remarquables, où un élève épate tout le monde en déclamant un poème d'Ovide sur un rythme de rap. Comme un exploit de ce genre mais impossible, je vous propose une autre voie pour rendre plus intéressante la définition de la catégorie des navires, c'est-à-dire de regarder une définition, ciselée sur le revers du monnaie. Voici un sesterce de Néron, c'est-à-dire une pièce de monnaie en or et calque. Son revers présente une vue synthétique mais très évocatrice du port d'Ostie près d'Érome. Alors, le port apparaît sous la forme d'un bassin encadré à gauche par une structure à colonnade, disons une digue, de forme circulaire, et à droite par une jetée sur pile. À l'entrée se tient une statue monumentale, de Neptune sur un piédestal. En dessous, l'image d'un dieu nu, accoudé sur un dauphin, et tenant un gouvernail qui représente sans doute la personnification du Tibre. Et qu'il soit dit en passant, il s'agit de métaphore, prosopopée, personnification. Alors, c'est comme pour dire que le port s'ouvre dans la mer, sur la mer, et là où les navires arrivent. De l'autre côté, il y a le fleuve, ce qui permet au navire de parcourir le dernier trait qui permet d'arriver jusqu'à dans la ville de Rome. À l'intérieur de l'enceinte mouillent 11 embarcations de tailles et formes diverses. La différence de taille n'est pas sans importance pour la scène. Les embarcations plus grandes sont celles qui arrivent dès la mer. Celles des plus petites tailles permettent, une fois la cargaison transférée de l'une à l'autre, de remonter le fleuve. Alors, voit donc une définition par image de la catégorie navire, plus ou moins comme Alphénus l'avait façonné par le langage en disant que la chaloupe est un tout petit navire. Alors, la monnaie nous présente une belle vue, on comprend bien le souci esthétique du graveur qui l'a poussé à remplir son bassin d'embarcation, mais pour Alphénus, quel est l'intérêt de mettre la chaloupe dans la catégorie des navires ? juste pour le plaisir de la métaphore du diminutif? Bien sûr que non, il s'agit d'un passage crucial dans son raisonnement. Alors, rappelons-nous la question, la chaloupe constitue-t-elle une partie du navire? Bien, si la chaloupe, en tant que petit navire, rentre dans la catégorie des navires, il exclut qu'elle puisse être aussi une partie d'un navire. Si une chose appartient à plein titre à une catégorie, du point de vue logique, elle ne peut pas être en même temps considérée comme faisant partie d'une chose de la même catégorie. Un homme ne fait pas partie d'un homme, une table ne fait pas partie d'une table. Une autre façon de présenter le raisonnement d'Alphénus, le réduire à un syllogisme, donc vous voyez, il part d'une prémisse générale, si X est antipode de Y, alors un X n'est pas une partie de Y. Et donc, la conclusion est que la chaloupe étant un type de navire n'est pas partie d'un navire. Alors, cela établi, Alphénus poursuit avec une autre observation, à savoir que la différence de la chaloupe, des éléments unis au navire en font partie, comme le timon, les mâts, les antennes, les voiles. À partir de cette liste, on comprend, vous voyez ici, omnia autem quae coniuncta navi essent, quasi membra navis essent. Il dit au contraire, donc il est en train de affermir sa première conclusion, sa conclusion, en utilisant un argument a contrario. Donc il dit en revanche, les éléments qui sont joints au navire sont pour ainsi dire les membres du navire. Alors, il faut dire, parce qu'il y a aussi les voiles. Et comme parfois m'arrivent des retours de votre part qui sont d'une précision, épouvantable, effrayante. Alors, et oui, les voiles ne sont pas vraiment jointes au navire. Donc, il faut comprendre que cette union est une union aussi, moi je dirais, socio-économique, fonctionnelle. C'est-à-dire, selon l'évaluation, l'expérience commune, cette connexion confère à ces éléments dans leur ensemble la qualité de navire. Ce sont des éléments nécessaires pour la navigation. Et c'est ici qu'Alphénus propose pour la deuxième fois dans ce petit texte une métaphore, cette fois-ci une métaphore très évidente, une métaphore corporelle. Ces éléments sont les membres du navire. Métaphore qui considère le navire comme un corps, un organisme, et certains de ces éléments sont ses membres. Ces organes vitaux, sans lesquels le corps n'est pas complet et ne peut pas répondre aux fonctions auxquelles il est appelé. Hors métaphore, sans mât et sans gouvernail, un navire n'est pas un vrai navire. Inversement, sans chaloupe, il reste un vrai navire. Et à son tour, une chaloupe est un navire accompli. Et je pense que cette mosaïque, au fond, dit déjà tout. En parlant de membres, Alphénus a voulu évoquer la métaphore du corps dans son état le plus efficace, celui de l'organisme vivant, dont la nature dépend de l'ensemble de ses membres. De cette manière, il a véritablement établi une distinction radicale entre la chaloupe, les canaux de sauvetage et les autres parties du navire. Donc, un texte très court, mais combien chargé de sens et contenant une opération argumentative ingénieuse. Alors, maintenant, on peut se demander s'il était normal de représenter un navire de cette manière, comme un corps avec ses membres. Donc, la question est, d'où est-ce que Alphénus a tiré cette idée? Essayons de voir les juristes en tant que personnes qui travaillent dans un milieu culturel. Alors, il faut tout de suite vous donner la réponse, c'était pas normal de penser de cette manière, de penser un navire sous la, la forme, disons, par le biais de membres de cet objet. Alors, commençons par un autre texte de juriste, un juriste un peu plus tardif qu'Alphénus. Il s'agit de Labéon, un juriste qui vivait à la fin de l'époque républicaine et au début du Principat. Donc, disons, la génération suivante par rapport à celle d'Alphénus. Labéon est mort sous Auguste. Alors, Labéon aborde lui aussi la définition de ce qu'est un navire dans un passage qui a été commenté plus tard par le même juriste Paul, qui a résumé l'œuvre d'Alphénus. Alors, cette coïncidence n'a pas de sens caché, mais il est néanmoins intéressant de constater que les meilleurs textes des juristes sont souvent ceux d'Alphénus, des Labéon et des Paul. Il existe, pour ainsi dire, des affinités électives entre eux. Si tu as acheté, dit Labéon, donc vous voyez la, la forme de ce texte, c'est un court propos de Labéon, ensuite un commentaire. Et ces propos, vous voyez le titre de cet ouvrage, il s'appelle Pitana. En latin, on le traduisait par probabile, proposition probable. Mais probable signifie aussi, dans ce contexte, digne d'approbation, propos persuasifs. Donc, ce sont des propos qui s'imposent et qu'on peut utiliser de façon très générale. Alors, vous comprenez quelle a été la démarche de Paul. Donc, il a trouvé un ouvrage qui était jalonné des propos probables. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de montrer qu'il n'était pas probable, qu'il n'était pas digne d'approbation, qu'on pouvait les critiquer. Et c'est ce qu'il fait ici, mais non, ce n'est pas vrai. Si tu as acheté un navire avec son équipement, on doit te fournir aussi la chaloupe, mais non, dit Paul. De fait, la chaloupe d'un navire n'est pas l'équipement d'un navire. En effet, elle diffère par la dimension plus petite, non par l'espèce. En effet, l'équipement d'une chose quelconque doit nécessairement être d'une autre espèce par rapport à cette chose, quelle qu'elle soit. C'est l'avis de Pomponius dans le septième livre de ses épîtres. Alors, vous avez bien compris, Labéon ici a été consulté à propos d'un contrat de vente dont l'objet était un navire avec son équipement. Toute la question réside dans ce mot « équipement ». Imaginez que vous alliez acheter un yacht et que vous l'achetiez avec son équipement. Que vous attendez-vous à y trouver? Je veux dire raisonnablement, si vous me répondez, je le veux avec un hélicoptère. J'imagine que dans ce yacht, il y a aussi un hélicoptère. Donc ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas une attente raisonnable. On peut l'ajouter si l'on veut. C'est pas. Bon, vous avez une expérience, donc je ne m'arrête pas là-dessus. Alors, peut-on raisonnablement demander au vendeur d'y inclure? C'est la question à laquelle Labéon doit répondre. Donc, probablement, il a été consulté par un vendeur ou un acheteur. Qui avait bien évidemment des idées bien différentes par rapport à cette question. Et notamment, est-ce qu'il faut y inclure sa chaloupe. Alors, l'Abéon répond que oui, il ne donne pas de réponse. Donc, c'est pas facile pour nous de comprendre son parcours. Mais c'est justement ça la force des probables. Ce sont des propos qui s'imposent en tant que tels, qui devraient s'imposer. D'où la critique de Paul, qui commente près de deux siècles plus tard l'ouvrage de l'Abéon, et il corrige son prédécesseur. Il dit que non, la chaloupe n'est pas incluse. Et il en offre une justification qui est très importante, parce que c'est comme lire en clair ce que Alphénus avait dit de façon un peu plus, disons, avec plus d'imagination, mais de façon un peu plus cachée. Donc j'aime bien la possibilité de mettre en parallèle ces deux textes, parce qu'ils s'éclaircissent mutuellement. Il dit, en effet, la chaloupe en diffère du navire, par la dimension seulement, elle est plus petite, non par l'espèce. L'espèce, vous voyez cette démarche de classification. Et il en tire la conséquence logique, que nous avons déjà vue dans le texte d'Alphénus, ou que nous avons tiré du texte d'Alphénus plutôt. Parce qu'elle était un peu implicite, mais ici on la voit vraiment en plein lumière. Un objet ne peut pas entrer dans une catégorie et être en même temps l'accessoire ou la partie d'un objet appartenant à la même catégorie. Alors, pour conclure son raisonnement, Paul s'appuie également sur l'autorité d'un autre juriste, Pomponius. Il s'agit d'un juriste plus ou moins contemporain de Gaius, deuxième siècle après Jésus-Christ, donc plus ou moins un mi-chemin chronologique entre l'Abéon et Paul lui-même. Pourquoi il fait ça? Parce que pour critiquer un géant comme l'Abéon, avec une autorité immense, il faut aussi s'appuyer sur un autre juriste avec beaucoup d'autorité comme Pomponius. Donc vous voyez ce rapport entre autorité et raison. Michel Ducot en a parlé dans un très beau article. Donc, il y a les deux. Ce n'est pas seulement les raisonnements. Il faut aussi avoir de l'autorité pour... Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans le domaine des juristes. Donc, ce n'est pas seulement les arguments, mais il faut aussi avoir une certaine crédibilité personnelle. Et donc c'est pour ça qu'il mobilise aussi un juriste précédent. Mais c'est très intéressant, c'est pas un dialogue qui passe seulement par des précédents. C'est pas un système juridique où, comme Pomponius une fois a dit ça, donc on suit Pomponius. Ce sont les deux. On suit Pomponius parce qu'il nous a proposé une bonne justification, une bonne solution. Alors, le discours, vous voyez que le discours de Paul est plus froid, moins imagé que celui d'Alphénus, et peut-être nous attendons aujourd'hui de tous les juristes qu'ils parlent comme Paul, plutôt, par concept et mots précis, et non comme le faisait Alphénus, avec plus d'imagination. Donc vous avez aussi vu, grâce à ce parallèle, que les métaphores sont quand même un outil très important, mais qu'on peut aussi se passer parfois des métaphores, et donc qu'explorer les métaphores lui donne accès à une mentalité, à une individualité d'un juriste. Donc c'est aussi pour ça que étudier les métaphores semble être une perspective assez riche. Alors, comme on le voit, Paul, la chose qui frappe l'œil est qu'il ne reprend pas la métaphore des membres du navire. Alors, si cette métaphore n'a pas séduit les juristes, Elle a en revanche traversé la mer qui sépare la jurisprudence de la poésie et est arrivée jusqu'au rivage où l'attendait Ovide. Avant de suivre ce transfert, quelques précisions au sens propre, c'est-à-dire comme partie du corps humain, le terme « membrum » est déjà attesté dans la loi des 12 tables. En latin, l'usage métaphorique de « membrum » est fréquent aussi, qu'il soit appliqué à des entités animées, par exemple le peuple dont les « membra » sont les citoyens, ou à des choses inanimées, par exemple les pièces comme « membra » d'une maison. À son tour, l'usage métaphorique et allégorique du navire était bien diffusé, notamment pour représenter la communauté politique. On considère que son inventeur de la métaphore de la communauté politique comme un navire fut Alcée de Mytilène entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et parmi des multiples exemples de cette allégorie politique dans la littérature latine, on peut signaler Horace, qui, sans toutefois recourir à la métaphore des membres caractéristiques d'Alphénus, emploie un vocabulaire qui implique l'anthropomorphisation « ne vois-tu comme ton flanc est dénué des rames quand ton mât, blessé par le rapide Africus, et tes antennes gémissent ». C'est un tout petit disons, passage d'Horace, et je pense que si on lisait ce passage hors contexte, on aurait du mal à comprendre toute sa beauté. Et sa beauté réside dans cette densité d'images qu'un lecteur ancien pouvait vraiment percevoir. Un lecteur ancien, comme Quintilien, qui a lu ce passage et a dit « Ici, le navire représente l'État, Rome, les flots et les tempêtes, les guerres civiles et le port, la paix, c'est pas dans les vers, mais ensuite, les ports, la paix et la concorde, représente la paix et la concorde. » Alors, c'est précisément la richesse métaphorique des deux substantifs « membre » et « navire » pris séparément. Donc on a vu que membre, on l'utilisait souvent pour faire des métaphores, la maison, le peuple. Le navire était utilisé pour la métaphore de l'État et d'autres métaphores, mais jamais on rencontre les deux dans une seule métaphore. La première fois, c'est dans le texte d'Alphénus. Et cette même métaphore, on la retrouve peu après chez un poète, Ovide. Et ensuite, elle disparaît presque totalement. Donc vous voyez l'idée, c'est que Ovide a probablement été influencé, il a lu, il avait une éducation juridique aussi, il a probablement été frappé par cette métaphore. Entrons dans le poème d'Ovide. Dans le 14e livre des Métamorphoses, le poème écrit à partir de l'an 1, donc quelques décennies après le moment où Alphénus a dû écrire son ouvrage, Ovide raconte qu'Énée, enfin débarqué dans l'Elysium, y rencontre la résistance des Rutules. Leur roi Turnus met le feu au navire d'Énée et de ses compagnons. Cybèle, la grande mère des dieux, intervient alors. Les pins dont sont faits les navires avaient été coupés sur la cime du mont Ida, qui lui était consacré à la déesse. « C'est en vain, Turnus, s'écrie la déesse, que ta main sacrilège lance ses brandons incendiaires. Je vais te les arracher. Je ne souffrirai point qu'une flamme dévorante consume des parties et des membres de mes forêts. » Membre, membra de mes forêts. Voilà le mot qui relie Alphénus à Ovide et amorce la métamorphose qui va sauver les navires. Écoutons Ovide. Avec l'aide des vents et de la pluie, Cybèle emporte au loin les navires qui penchent de l'avant et les immergent dans les flots. Les bois résistants s'amollissent et se transforment en corps humain. Leur poupe recourbée prennent la forme de visage, là où étaient les rames apparaissent des doigts et des jambes qui fendent la vague, les flancs seront les flancs, et la quille qui soutient chaque nef par le milieu se convertit en épine dorsale. Les cordages sont à présent des souples chevelures et les antennes des bras. Ces êtres qui auparavant redoutaient les flots deviennent des vierges qui les animent de leur jeu, des naïades de la mer. Nées sur les durs rochers des montagnes, elles hantent l'élément liquide sans se soucier de leur origine. Alors, ici finit Ovid, et ce qui, chez les juristes Alphénus, était une métaphore allant de l'homme au navire pour connoter l'identité conférée au navire par l'unité fonctionnelle de ses parties, est reprise et inversée dans la métamorphose poétique de ses parties en membres humains. Voilà, retrouver la convergence des deux textes qui jaillissent de la même métaphore et qui l'exploitent symétriquement. Alors, établir un lien entre ces textes, et je précise que Ovid a réutilisé cette métaphore plusieurs fois, donc ce n'est pas le seul endroit où il a utilisé la métaphore de membre du navire, signifie réunir la pensée des juristes à la culture et à la société dans laquelle ils ont vécu. S'il m'est permis de pousser à son terme la métamorphose des navires d'aînés en souple néréide, je dirais que historiciser le droit romain signifie immerger les textes juridiques dans l'Antiquité en toutes ses manifestations. Mais les juristes sont-ils les seuls à fournir des images à la littérature ou se nourrissent-ils à leur tour de la littérature pour leur écriture? Alors, vous vous souvenez, bien sûr, parce qu'on a insisté beaucoup sur cette locution, des deux mots parva navicula, petite nacelle, utilisés par Alphénus. Eh bien, il y a une autre occurrence de cette locution dans la littérature latine, une seule, chez Cicéron, dans les discours qu'il a prononcés après son retour de son exil en septembre 57 avant Jésus-Christ. C'est un discours dramatique. Cicéron évoque tout le malheur qu'il a enduré, qui a frappé aussi ses proches, le deuil lugubre de mon épouse infortunée, le chagrin éternel de la meilleure des filles, les regrets et les larmes enfantines de mon jeune fils étaient dérobés à vos yeux par des voyages nécessaires. Il allait chercher... visiter Cicéron, ou en grande partie par les ténèbres de la maison. Alors, malheureux et héroïque en même temps, Cicéron se compare ensuite à son concitoyen d'Arpinum, Marius, auquel il rend un hommage appuyé, qui est, nous connaissons bien Cicéron, un hommage à lui-même, dans un miroir, lisons cet hommage à Marius et à Cicéron. Ceux dont un homme courageux ne peut jamais être privé demeure et demeurera à jamais inviolé. Ça, c'est la sentence, le propos d'entrée qu'il faut retenir, qui donne le ton à tous ceux qui viennent ensuite. Ce dont un homme courageux ne peut jamais être privé demeure et demeurera à jamais inviolé. J'ai vu les plus braves des hommes, mon concitoyen Gaius Marius, car il était condamné comme moi par une fatalité irrésistible, à faire la guerre non seulement à ceux qui avaient conçu l'ambition d'exterminer la société, mais encore au destin lui-même. Je l'ai vu, dis-je, malgré son extrême vieillesse, non pas brisé dans son esprit par cette effroyable catastrophe, mais au contraire ranimé par un nouvel accès de courage. Je l'ai moi-même entendu dire qu'alors il avait été bien malheureux lorsqu'il avait été privé de son pays qu'il avait délivré de l'état de siège, lorsqu'il avait appris que ses biens étaient occupés et pillés par ses ennemis, lorsqu'il avait vu son jeune fils entraîné dans la même calamité que lui, quand sa personne et sa vie furent sauvées de la noyade dans les marais par les habitants de Minturn, qui s'empressèrent avec compassion de lui porter secours. Et je l'ai vu quand il passa en Afrique dans une petite nacelle pour se jeter, suppliant, sans défense, à la merci de ceux à qui il avait jadis donné des royaumes, mais que lorsqu'il aurait reconquis son ancienne position, il ne serait jamais assez pauvre d'esprit pour renoncer à la fermeté d'âme qu'il n'avait jamais perdue, lorsque ce qu'il avait perdu lui aurait été restitué. Donc vous voyez que la fin reprend la proposition de départ. Cicéron prononça ce discours, probablement devant une foule nombreuse et émue, parcourue par des sentiments différents, car vous savez, Cicéron n'était pas très aimé par les partisans de César. Peut-être y avait-il aussi un jeune Alphénus au milieu de cette foule, les futurs juristes qui avaient alors à peine 20 ans, peut-être moins. C'est alors qu'il a entendu cette expression Parva Navicula, la minuscule nacelle qui portait le grand Marius à travers la mer vers l'Afrique, demander secours. Le contraste entre la misérable embarcation et le grand passé du commandant indiquait à quel point on peut être à la merci des vagues du destin. Ces mots, entendus dans un loin mois de septembre de la bouche de Cicéron, dans cette émouvante réunion de peuples, reviendront à l'esprit d'Alphénus lorsqu'il devra définir ce qu'une chaloupe. Ce ne sont que des mots, tout comme la métaphore reprise par Ovide qui se souvient à son tour des membres du navire conçu par Alphénus. Mais il me semble que grâce à ces mots, les juristes, les orateurs, les hommes politiques, les poètes, reviennent au moins un instant se parler. Les deux prochaines semaines sont des vacances scolaires. Nous devons donc suspendre les cours qui reprendront le mercredi 24 avril. Et j'espère que nous nous retrouverons ici pour poursuivre notre dialogue. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.